donc pour ce débat qui nous pose la question de l'histoire, en fait. Je suis vraiment très, très contente d'accueillir Alain Mascaro. On s'est croisé pas mal de fois cet automne, ce printemps, dont vous étiez présent à la rentrée littéraire de Auvergne-Rhône-Alpes en Lyon. À Lyon, c'est là que j'ai découvert votre texte l'été dernier. Et on s'est croisé dans d'autres événements et je découvre Sandrine Berthet, j'en suis ravie. Elle dit que c'est le premier débat auquel elle participe, c'est ça ? Oh là là, formidable. Vous allez voir comme ça va être chouette. Alors, deux textes qui ont des points communs, évidemment, d'inscrire des aventures, des péripéties, des personnages dont on va parler dans un cadre historique précis. Tout à l'heure, Alain, en cheminant, me disait « Mais moi, ça ne parle pas tellement d'histoire, mais si, quand même. » Et je trouve qu'un des points communs, c'est d'évoquer des histoires qui ont été reléguées, qui ont été enfouies dans le silence aussi, qui ont été oubliées. Pour des raisons d'ailleurs assez variées, je trouve, qu'on va peut-être pouvoir préciser. Alors, Sandrine Berthet, votre livre qui s'appelle « Jeter aux ténèbres », qui est paru aux éditions du Sonneur, je crois, évoque la déportation des communards condamnés par les conseils de guerre à l'issue de l'échec de la Commune et du massacre de la Semaine sanglante. Et donc cette déportation, qui est d'abord un voyage, en effet, très très long, extrêmement pénible, atroce même, on peut le dire, et puis la découverte de ce qui les attend en Nouvelle-Calédonie, des conditions dans lesquelles ils vont devoir vivre, survivre, et tout ça à travers un personnage dont on évoquera un peu le contour fictionnel, puisque à côté de personnages tout à fait réels qui ont existé, vous avez inventé ce personnage, je pense, qui est un mix de beaucoup de témoins de la Commune. Alors pourquoi je disais une histoire oubliée ? Je crois qu'en effet, c'est un thème qui revient souvent dans la bouche de vos personnages. On a voulu, il y a une dimension châtiment, expiation très très forte dans le traitement des communards. On a voulu les reléguer, les envoyer très très loin d'une part, et puis faire qu'on ne parle plus d'eux en fait. L'amnistie a mis beaucoup de temps à arriver, il en est beaucoup question dans le texte, et je crois que cette histoire politique de la Commune, pour plein de raisons, la République a voulu qu'on n'en parle pas, les régimes suivants, voilà, c'est un épouvantail, c'est une histoire ouvrière tellement révolutionnaire, tellement forte dans son projet politique, démocratique, éducatif, d'égalité homme-femme, etc., qu'il devrait rayonner bien plus qu'il ne l'a fait à travers l'histoire. Voilà. Donc on reviendra sur cet aspect. Alors, Alain Mascaro, donc ça commence en 1872, je crois, et ça se finit en 1867, 80, voilà, avec l'amnistie. Prenez un micro, Sandrine. C'est bien. Alain Mascaro, avant que le monde ne se ferme, c'est un roman qui commence après la Première Guerre mondiale, hein, et puis qui s'achève au-delà de la Seconde Guerre mondiale, et qui prend ses racines, qui s'installe dans ce qu'on appelle une compagnia, c'est-à-dire un clan de Tziganes. On ne sait pas comment on appellera. J'ai revisité la terminologie des Roms, des Tziganes. C'est extrêmement compliqué. Très compliqué, ça dépend des pays, ça dépend. Il y a des termes qui sont péjoratifs, d'autres pas. Enfin voilà. Donc on parlera de Tziganes pour faire simple. Cette compagnia, elle se déplace depuis l'Asie centrale, à travers l'Europe, elle bouge beaucoup, etc. Et c'est un des aspects du texte, c'est comment elle va être amenée justement à ne plus se déplacer, à vivre un enfermement. D'abord dans une sorte de camp en banlieue de Lodz, et puis dans un ghetto, et puis en le camp de concentration, etc. À travers un personnage qui s'appelle Anton, qui traverse toute cette histoire, qui traverse ce siècle et les génocides, qui est un dresseur de chevaux. Voilà, très rapidement présenter ces deux textes. Alors peut-être, Alain, je commencerai par vous, puisque j'en suis là. Vous demandez, ça n'est pas un livre politique, on est d'accord, ça n'est pas un livre historique, mais ça se déploie dans un contexte quand même dont vous donnez des représentations, des évocations, parfois très, très directes. Il y a un point qui m'a beaucoup frappé dans le début du texte, c'est que vous resituez très, très, très bien que la vie des Tziganes, c'est de se mouvoir, c'est de se déplacer, c'est de bouger. Et vous dites, enfin, un des personnages au début, donc il y a Svetan, il y a sa femme, il y a Johan le grand-père, il y a des personnages importants, il y a Jacques le violoniste, il y aura un médecin qu'on va rencontrer. Un des personnages dit, il y a vraiment un monde, alors avant que le monde ne se ferme, il y a un monde qui est en train de disparaître et qu'avant il pouvait aller d'une mer à l'autre sans difficulté. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Hein. Peut-être revenir sur ce point, parce que sur la liberté de mouvement des Tziganes en Europe, moi j'ai un peu un peu de mémoire que c'était pas si facile de circuler.
Non, là, alors là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait en accord avec l'histoire avec un grand H, puisque j'ai un peu triché avec l'histoire avec un grand H mieux travailler l'histoire avec un petit H. Il s'agissait simplement pour moi de montrer le contraste entre ce qui se passait avant-guerre et pendant la guerre et après-guerre. Donc j'ai un peu triché parce que les Tziganes, mon Tzigane va... Enfin, non pas naître, mais il est conçu dans les plaines d'Asie centrale. Et donc, il appartient à un moment donné à l'Empire soviétique. Et Staline a mis très, très tôt en place des passeports de circulation qui rendaient la vie des Tziganes parfaitement impossible. Ils étaient généralement cantonnés à une région et ils n'avaient pas le droit de bouger. Dans le même temps, les Tziganes roumains avaient été réduits en esclavage pendant plus d'un siècle. Les Allemands avaient mis en place le Tigoinerbourg qui recensait les familles et les cantonnait encore une fois une région. Non, pour moi, c'était juste pour accentuer presque une nostalgie des personnages d'un temps qui finalement n'existe pas vraiment, qui était celui de la liberté et de l'ouverture. Néanmoins, il a quand même été plus simple à un moment donné pour les Tziganes de circuler en Europe et dans le monde. Les choses ont empiré et pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Et j'avoue que aujourd'hui, rien n'est gagné. J'attends avec impatience ce qui se passera en Europe lorsque la Roumanie intégrera l'espace Schengen, ce qui n'est pas le cas si je ne me trompe pas. Et donc on verra comment nous allons réagir, si nous laisserons circuler ces citoyens ou pas. Permettez-moi d'en douter.
Pour revenir à l'histoire française, par exemple, il y a un document qui s'appelle encore le carnet de circulation. Hein, et je crois qu'il y a une loi de 2017 qui a reprécisé tout ça, qui est revenue sur la loi de 1969. Donc c'est une histoire qui dure, en fait. Hein, carnet de circulation qui valait comme carnet d'identité, en tout cas, qui oblige les gens du voyage, comme on dit maintenant, publiquement, à être attachés quand même à un lieu, à les empêcher de circuler librement. Voilà.
Oui, et vous savez que les municipalités d'une certaine importance sont tenues de mettre à disposition des espaces réservés aux gens du voyage. Simplement, ces espaces ne sont absolument pas respectueux d'une culture, puisqu'un camp de Tzigane normal, entre guillemets, c'est un cercle. Sur un cercle, tout le monde voit tout le monde et il n'y a pas d'hierarchie. Or, les camps tels qu'ils sont proposés par les municipalités proposent des garages en épi, c'est-à-dire en fait une hiérarchisation où on ne peut pas voir ses voisins pour peu qu'il y ait une caravane intermédiaire. Ce qui explique qu'un bon nombre de camps qui ne respectent justement pas cette culture ont été vandalisés, alors que les camps ouverts ne le sont pas.
Alors, on va beaucoup parler avec Sandrine Berthet de la documentation, parce qu'elle est très importante dans son travail. Elle s'appuie sur des sources historiques réelles. Peut-être, Alain, ce serait bien que vous nous expliquiez votre rapport aux Tziganes, peut-être aux sources que vous avez, aux sources personnelles, d'échanges, de paroles que vous avez utilisées pour ce texte-là.
On pourrait presque parler de chimère mentale. Ça commence enfant, 4-5 ans, j'habite au bord d'une nationale, la nationale 89 pour ne pas la citer. Et dans le petit village de Chigna, deux ou trois fois l'an, passent des convois de roulottes tirés encore par des chevaux. Et la liberté de ce peuple me fascine, surtout celle des enfants qui courent à côté des roulottes, qui ne vont pas à l'école alors que moi j'y vais, et qui ont une liberté que je n'ai pas. Donc il y a cette fascination pour les tziganes à ce moment-là. Ensuite, en 1990, je vais par hasard rencontrer à nouveau les tziganes, c'est-à-dire j'avise un jour une affiche qui annonce un concours de nouvelles. Il me reste 3 jours pour écrire la nouvelle parce que je m'y suis pris trop tard. Le prix, elle est richement dotée, donc ça me motive parce que je suis pauvre à l'époque, vraiment. Et j'ai pas d'idée. Voilà, le thème, c'est les chevaux de la gloire. Donc je vais au CDI de mon établissement, je prends un livre au hasard dans un rayon de bibliothèque, je l'ouvre au hasard et je tombe sur Johann Torvat, premier tzigane mort à Mauthausen. Et à partir de là, je vais imaginer à ce Johann un autre destin, c'est-à-dire je vais le faire sortir du camp, gagner une course de chevaux et reconstruire un cirque équestre. Donc là, on est en 90 et 10 ans plus tard, le hasard des nominations fait que je me retrouve dans un petit collège du Puy-de-Dôme où je vais enseigner à des tziganes. Alors pas des classes entières, mais simplement j'ai une classe de 6e par exemple où c'est un tiers de tziganes, 2 tiers de gadjés, avec toutes les difficultés qu'on trouve habituellement dans une classe de 6e, mais accentuées par la présence des tziganes. Et là, ça va me permettre de côtoyer un petit peu ce peuple, d'entrer dans les camps, de discuter avec les adultes, sans avoir la prétention de connaître, hein, parce que quand on est un gadjo, on reste de toute façon... c'est très difficile, il faut plusieurs années, je serais tenté de dire des dizaines d'années, pour vraiment entrer et comprendre et être accepté par ce peuple, qui est très méfiant à notre égard, comme nous le sommes au leur.
Quand vous regardiez enfants passer ces caravanes et ces enfants, vous n'avez pas eu envie de partir avec eux ?
Si, j'ai fini par le faire, hein, j'ai fini par le faire, donc je l'ai fait en 2019. Ma compagne et moi avons tout vendu, ne gardant qu'une voiture et qu'une tente de toit, parce qu'on savait qu'un jour on serait contraint de rentrer en France et qu'il nous faudrait une maison. Et donc les habits que vous voyez sur moi, d'habitude je ne les ai pas, je les ai achetés spécialement pour la promotion de mon roman. Sinon je suis vêtu comme un randonneur avec des gros godillots et des... voilà. Alors bon, je ne peux pas aller comme ça partout, c'est difficile. Donc nous sommes partis en 2019 et justement notre voyage a commencé là où le roman commence, c'est-à-dire sur les hautes plaines de Sarimogol. C'est un endroit absolument merveilleux dont je vous conseille vivement la fréquentation. Donc on est à presque 4000 mètres d'altitude et d'un côté il y a le Pamir, de l'autre côté là, il y a le Tien Shan qui marque la séparation avec la Chine. Et là il y a de vrais nomades encore qui vivent dans des yourtes et c'est là que mon roman va commencer. C'est aussi là d'ailleurs que le roman va s'achever, dans ce même endroit. Malheureusement au bout de 9 mois d'errance en Asie centrale et en Asie du Sud-Est, ben, comme vous, la pandémie me tombe sur le nez et donc pour moi le monde se ferme à ce moment-là. Et c'est au cours de notre confinement thaïlandais que je vais reprendre un manuscrit plus vaste, extraire ce qui, dans ce manuscrit de 750 pages, n'était qu'un épisode, et en tirer un roman à peu près cohérent.
Quand j'évoquais le fait de partir enfant avec les tziganes, je pensais évidemment au livre magnifique de Jan Vors qui s'appelle Tzigane, qui raconte l'histoire de cet enfant qui s'est mis à jouer avec ses petits voisins tziganes. Il a fini par dormir une nuit et puis plein de nuits et il est parti des mois, ses parents n'ayant plus de nouvelles de lui, il est revenu. Enfin, je vous le conseille vraiment, c'est un livre extraordinaire hein, sur, pour essayer justement de comprendre cette histoire-là aussi. Voilà. Sandrine Berthet, votre lien avec la Nouvelle-Calédonie peut-être pour faire le lien avec Alain.
J'y ai vécu, ça marche ? Ouais. J'y ai vécu jusqu'au bac, donc enfance et adolescence, et au-delà de ce qu'est ce pays, c'est le pays d'enfance.
Quelles sont les traces de cette histoire en Nouvelle-Calédonie ? Les traces matérielles.
Matériel, il n'y en a à peu près plus. Le lieu où il y a eu 3 lieux de déportation pour les communards. Un à côté de Nouméa, où il n'y a plus rien. Ça a été éradiqué pour en faire une zone industrielle dans les années 70. Un à l'île des Pins, les choses sont, les aspects matériels, le peu qu'il y avait, sont toujours là. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc en fait, il y a une société, je sais qu'il y a... Moi, quand j'y habitais, on en parlait une fois tous les 10 ans. De Louise Michel, c'était à peu près tout, donc en fait on ne disait rien, mais j'avais en tête quelque part, au fond de mon cerveau, que Louise Michel était passée par là un de ces jours, mais c'est tout. Et par contre je sais que depuis, il y a une société d'histoire calédonienne qui s'est créée et qui a fait des études, qui a essayé de retrouver certains vestiges qui avaient disparu.
Alors c'est vrai qu'on a pu entendre parler de cette déportation avec l'image de Louise Michel, qui est quand même très connue, qui... J'ai envie de dire qu'il a résisté à cet oubli, hein. Mais ce qu'on découvre grâce à vous, c'est toute une histoire extrêmement dense, extrêmement riche, et peut-être parler de la construction du texte. C'est un texte en 3 parties, hein, d'abord en 3/3 à peu près équivalent, peut-être la partie du milieu est plus importante, mais en tout cas vous consacrez beaucoup de temps au voyage lui-même, peut-être qui a plusieurs effets pour le lecteur. C'est d'une part d'abord de nous faire comprendre les conditions de ce déplacement, cette déportation, et puis à travers votre personnage, de petit à petit de poser quelques graines pour nous, pour bien comprendre à travers des personnages réels. Donc, peut-être 2 mots sur cette construction en 3 parties.
Juste un mot sur Louise Michel. En fait, elle n'a joué aucun rôle majeur dans la commune. Son côté iconique est arrivé justement pendant la déportation. Elle est revenue en France comme quelqu'un de très connu, mais avant, quand elle est partie. Et je le précise parce que pour les gens attachés à la commune, ça les énerve toujours qu'on parle de Louise Michel qui n'a rien fait de vraiment connu à ce moment-là. En tout cas, parenthèse à part. Franchement, effectivement, il y a 3 parties. La 3e n'était pas prévue, en fait. La première, c'est le voyage, parce qu'une chose qui m'a marquée, aujourd'hui, vous allez là-bas, c'est 24 heures d'avion, c'est pas très agréable, c'est 10 heures de décalage, mais enfin, voilà, ça. À l'époque, c'était...
On peut survivre.
À l'époque, c'était 4 mois. Ça veut dire aussi... ce qui est vraiment marquant, c'est au moins de se dire, il faut 4 mois pour y aller. C'est que vous écrivez à vos proches, ça met 4 mois à partir, et même s'ils répondent tout de suite, ça met 4 mois à revenir. C'est-à-dire 8 mois pour le courrier. Évidemment, sans téléphone et tout ça à l'époque. C'est surtout ça, je trouve, qui représente la distance de l'époque. À l'époque, le monde n'était pas comme aujourd'hui, donc ça avait vraiment une valeur de se dire on est vraiment loin de chez soi, et ça a une grande signification. Donc effectivement, la première partie parle du voyage de la France jusque là-bas, qui est long et périlleux, en fait, et relativement désagréable pour les concernés. Et je n'avais pas prévu la troisième. Donc la deuxième partie se passe sur le lieu de déportation lui-même, qui est celui que j'ai choisi, c'est celui qui est aux portes de Nouméa. Et je n'avais pas prévu la troisième partie qui se passe dans Nouméa, puisqu'une partie des communards ont eu le droit de quitter leur lieu de déportation pour aller à la ville. Enfin, il faut le dire vite, parce que ville, voire, j'ose pas dire, à la civilisation, vu à quoi ça ressemblait, et d'avoir une vie au milieu des colons, en fait, et surtout des militaires, puisque la colonie, c'était surtout une colonie militaire. Mais cette partie-là, en fait, est venue après. J'ai fait des recherches sur ce à quoi ressemblait Nouméa à l'époque, où j'y ai vécu plus de 100 années plus tard, et j'ai trouvé qu'en fait, ça m'a vraiment intéressée. Et j'ai eu envie de parler de l'aspect colonial de la Calédonie, de fondation d'une colonie, alors qu'en fait, au début, je voulais juste centrer sur les déportés. Alors
c'est vrai qu'on découvre que sur le bateau, donc le bateau en question, c'est la Danaé, c'est une frégate, c'est le premier bateau qui arrive en Nouvelle-Calédonie. À son bord, effectivement, il y a des militaires, il y a beaucoup d'équipages, d'une part, ils sont très nombreux, et il y a des colons. Et moi, ce qui m'a frappé dans le texte, c'est cette femme de colon qui arrive et qui dit « mais je ne veux pas rester là, quoi, c'est épouvantable », quand elle découvre ce qu'est Nouméa. Alors, peut-être dire que sur les conditions de voyage quand même des déportés, ils sont enfermés dans des cages. Il y a un capitaine qui est quand même assez violent, assez sadique, on va dire. À la moindre incartade, ils sont mis au fer. J'ai compris ce que c'était que physiquement d'être mis au fer, c'est-à-dire à quel point le corps a vraiment du mal à s'en remettre. C'est horrible de ne plus bouger pendant des jours et des jours, voire des semaines. Ils ont le droit de... Enfin, on les fait sortir sur le pont pas tout le temps, mais quand même parfois. Et puis, surtout, que faire, quoi ? Et toute cette dimension de l'enfermement, et à travers votre personnage, ce qui est marquant, c'est que, donc Étienne, peut-être on va aborder et aussi pour Alain le personnage principal, ce qui compte, c'est d'occuper son corps et son esprit, en fait. Peut-être cet aspect de la détention.
C'est l'aspect le plus marquant, je pense. En fait, au début, je n'avais pas l'intention d'écrire un roman là-dessus. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont motivée, qui m'ont intéressée en fait. Et l'une d'elles, ça a été de me dire, donc, sachant où ils avaient passé une dizaine d'années, je me suis demandé en fait comment moralement on survit, pas physiquement, comment on ne devient pas fou quand on est là. Et donc effectivement tout, depuis le voyage jusqu'à la déportation, la grande épreuve qu'on a voulu leur faire subir, c'était de ne rien faire. Pour qu'ils aient le temps d'expier. C'était appelé la terre de l'expiation. Il y avait une dimension très clairement catholique, religieuse là-dedans, puisque le problème avec les communards, c'est non seulement qu'ils étaient républicains, mais qu'en général, ils étaient athées, donc vraiment le satanisme jusqu'au bout. Et donc, il s'agissait de les faire expier, avec l'aspect de torture physique, qui est toujours associé à ça, mais aussi, bien sûr, morale. Et en fait, le fait de ne rien avoir à faire, absolument rien au sens propre de ces journées, dans un endroit qui est, on va dire, désertique, c'est d'autant plus marquant que la plupart, ce n'est pas le cas de mon personnage qui est un ingénieur, mais la plupart étaient on dirait aujourd'hui, même si à l'époque ça aurait été anachronique, des prolétaires, des gens dont la vie c'était de travailler avec leurs mains, pas des intellectuels. Donc les intellectuels s'en sortaient mieux puisque ils se faisaient amener des livres, tant bien que mal, et donc ils arrivaient un peu à s'en sortir comme ça. Mais le plus dur c'était pour ceux dont la vie c'était, c'était un travail manuel. Et du coup, l'isolement, l'exil pour eux c'est. Ne plus avoir de vie, d'autant plus que tout ce qui leur était, tout ce qui faisait leur vie, leur famille, leur environnement, le paysage, la ville qu'ils n'avaient jamais quittée, tout ça est non seulement pas là, mais est très très loin, est à des mois et des mois. C'est ça le plus dur et c'était voulu.
Ouais. Par exemple, ce qu'on apprend, c'est que quand ils débarquent sur cette terre complètement aride, d'ailleurs, il est beaucoup question du soleil. La citation que vous donnez de Victor Hugo dit que ils sont jetés aux ténèbres, il ne reste plus que le soleil. Le soleil, il est terrible. Déjà sur le bateau, c'est juste l'enfer. Et quand ils arrivent là-bas, par exemple, Étienne, il prend un monstrueux coup de soleil, notamment. Il faut qu'ils se construisent en fait leur paillote. Bien sûr, l'administration se garde bien de leur donner des outils. Ça dure des mois et des mois avant qu'ils obtiennent de quoi fabriquer. Et donc, effectivement, c'est cette espèce de non-vie en fait qui est frappante. C'est-à-dire on les oblige à n'être plus rien. Et quand vous voyez la différence entre intellectuel et manuel. Étienne, vous en avez fait un personnage, et c'est un futur ingénieur. Il est dans un milieu plutôt aisé. Enfin, il n'est pas misérable du tout. Sa famille lui envoie de quoi dessiner aussi, et puis des livres. Donc, il a un autre regard sur. Et en tout cas, ce qu'il va très vite décider, mais c'est déjà vrai sur le bateau, mais quand il arrive à Ducos, qui est le nom du lieu où ils sont. Relégué, c'est de faire quelque chose. Et notamment, il va devenir botaniste.
Oui, c'est vraiment. J'ai eu beaucoup de souvenirs de communards, parce que quand ils sont revenus, il y a eu une sorte. Les éditeurs les ont poussés, pour ceux qui étaient lettrés, on va dire, à écrire leurs souvenirs. Donc il y a pas mal de souvenirs où certains ont été écrits bien plus tard. En tout cas, il y a des témoignages, et c'est essentiellement par la source, de la manière dont ça s'est passé. Et le grand enjeu, c'est ça, vous imaginez, vous êtes dans un endroit désertique, on vous donne quelque chose à manger, enfin quelque chose quoi. Et puis à part ça, la journée se passe et il n'y a à peu près rien à faire. On se lève, on doit se coucher à heure fixe, mais c'est tout. Et ça dure très très longtemps. Et du coup, c'est vraiment ça, encore une fois, le châtiment, pour pouvoir revenir sur soi et réfléchir à ce qu'on a fait et expier tout ça. Et alors, vous disiez en fait qu'ils ne deviennent rien. Non, on les fait devenir, on cherche à les faire devenir des animaux. Et c'est le propre de la torture, qui est ramener les gens à un état animal, aux besoins matériels, pour ne plus pouvoir penser, et donc perdre ses défenses, perdre ses convictions, et du coup devenir une petite chose molle qui va rentrer dans le rang. C'est ça, en fait, le processus qui est attendu. Et tout l'enjeu de ceux qui sont là-bas, Et c'est ce qui va se passer quand ils rentreront, c'est s'acharner sur ces convictions qui vous ont déjà coûté très très cher, ou bien passer à autre chose. Et il faut une force, et c'est pareil, j'allais dire, quelle que soit l'époque, il faut une force morale hors du commun pour survivre moralement à ça.
Peut-être deux mots sur les personnages réels qui apparaissent dans votre texte. Je pense à Bauer, critique littéraire, je pense à Balière, Assis. Comment vous avez géré le fait de, à travers ces personnages, de donner quelques représentations, quelques vues sur ce qu'a pu être la Commune, sur le rôle que chacun y a joué?
Je voulais surtout pas écrire un livre d'histoire, je voulais vraiment, c'est un roman d'aventure même, si en fait il leur arrive rien. Mais c'est vraiment pour moi un roman d'aventure. Et donc je voulais mettre des personnages parmi ceux qui ont existé parce qu'ils sont en fait tout simplement extraordinaires. Ils ont pu faire des choses négatives aussi. Il n'y a absolument pas d'agiographie là-dedans. Mais c'est des gens qui ont un caractère qu'on retrouve rarement. Et donc déjà, c'était des personnages en soi qui m'importaient d'avoir. Par contre, je ne voulais pas les trahir. Donc c'est pas un roman d'histoire, mais il était, et par chance, si j'ose dire, vous prenez quelqu'un comme effectivement, alors Louise Michel, évidemment, c'est différent, donc j'ai fait très attention à ce que je pouvais dire d'elle, ou lui faire dire, ça devait être réaliste, mais pour les autres, il y a assez peu de choses. Prenez quelqu'un comme Adolphe Assis, effectivement, que vous citez, j'ai pris la bibliographie du Métron, en fait, qui est un dictionnaire des mouvements révolutionnaires, donc tous les petits qui font les révolutions, Adolphe Assis, il a ça dedans. Donc je respecte le ça, où il est né, où il est mort, et ce à quoi il a participé, mais ça vous laisse libre d'imaginer beaucoup de choses. Donc en fait, ça se voulait réaliste, mais ça ne m'a pas beaucoup contrainte, puisque en tout cas, il y a assez peu de choses qui ont été vraiment formalisées, vu que depuis, on a pris soin de garder la Commune en dehors des manuels scolaires et de beaucoup de célébrations officielles.
Alors, on va revenir sur votre texte, Alain Mascaro, sur... Il y a une phrase assez proche que vous énoncez à un moment donné quand les Tziganes, la compagnia d'Anton, se retrouvent piégés à Lodz, notamment, et qu'on découvre l'horreur de ce qu'on fait subir aux Tziganes comme à d'autres, les nazis. Et en fait, il y a un des personnages qui dit mais ils veulent qu'on devienne, qu'on ressemble à l'image qu'ils se font de nous, en fait. C'est-à-dire l'animalité, le fait de doter toute humanité. Non, il y a vraiment des parallèles, hein, tout à fait. Alors peut-être, c'est aussi un roman d'aventure. Hein,
tout à fait.
Ça n'est pas un roman historique, ça n'est pas un livre d'histoire. Et il y a ce personnage d'Anton, j'aimerais bien qu'on s'approche un peu de lui pour voir ce qu'il nous dit de cette histoire-là. D'abord, ce qui m'a... on apprend sa naissance au début du texte.
La conception. Oui, oui. Il est conçu dans les plaines tziganes, mais on ne sait pas où il naît, en fait.
Alors, il y a beaucoup d'éléments au début autour de la prédiction, puisque le père, il est sûr, il sera dresseur de chevaux, il aura une vie d'aventure et tout. Donc, c'est cette dimension peut-être aussi d'une certaine culture. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est, vous y revenez à plusieurs reprises, d'abord, le fait qu'ils auraient pu partir avant que le monde ne se ferme. C'est évoqué. Hein, ils auraient pu prendre un bateau, partir en Amérique et tout. Ils ne le font pas. Cette forme de fatalisme, peut-être s'arrêter un petit peu là-dessus. Alors, les choses sont écrites.
Il y a une forme de fatalisme, mais il y a aussi quelque chose qui tient à l'âme des voyageurs aussi. Hein. Dans double prédiction, double parole oraculaire, celle du grand-père, Johann, qui annonce la venue des bourreaux, et parole oraculaire du père, qui a un don de double vue depuis que tout petit, il a ouvert une sorte de troisième œil en tombant sur l'arête, sur une pierre vive. Et donc, lui annonce que son fils, d'abord, il annonce que ce sera un fils, et il annonce qu'il sera dresseur de chevaux, mais surtout, il annonce qu'il sera dresseur de chevaux en l'absence de sa famille. C'est-à-dire la prédiction du père rejoint celle du grand-père. Et donc, oui, ils prennent, au début du livre, Svetan, le père, prend la décision de partir, c'est-à-dire d'écouter la parole de son père, sauf que le peuple tzigane étant un peuple du présent, très très vite, ils oublient les bonnes résolutions, comme l'endroit où ils sont est beau. Là, il y a par exemple la mer Noire, ils trouvent qu'ils y restent. Donc ils vont stagner, enfin ils vont stationner longtemps dans certains endroits, simplement parce qu'ils sont heureux d'être là. Et donc ils oublient, en fait, cette prédiction. Mais en même temps, effectivement, il y a une dimension fataliste. Je crois, pétri de culture grecque. Et donc, ma foi, on retrouve la place de la parole oraculaire, telle qu'on peut la trouver, par exemple, dans l'Œdipe roi de Sophocle. C'est comment, finalement, un personnage, en essayant d'échapper à son destin, fonce droit dans son destin. C'est ce qui arrive à Œdipe, mais d'une certaine façon, c'est aussi ce qui arrive à Antone. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne suis pas sûr.
J'étais perturbée par le petit train. Je voudrais revenir là-dessus. Très vite, on entre dans le cœur de l'histoire de ce texte, quand même. C'est le fait que Antone, son destin de dresseur de chevaux, va quand même très vite être compromis. Hein, puisque ce que vous expliquez, c'est à quel point l'empêchement de voyager, de se déplacer, est allé vite. Ils se rendent compte, ils entendent parler, il se passe des choses dans ce qu'on appelle maintenant l'URSS, ils entendent parler de ce qui se passe en Allemagne, ils arrivent en Autriche d'abord, etc. Et en fait, c'est ce dépouillement progressif, c'est-à-dire que ce rétrécissement. D'abord, au début, il n'y a pas de la géographie chez Sandrine Berthet, mais chez vous non plus. Je trouve qu'il y a une description qui se veut la plus réaliste possible de ce que c'est que cette compagnia. Il y a des gens pas sympas, voilà, d'autres oui, il y a des jalousies, on se bat parfois, mais c'est quand même une petite communauté riche, en tout cas, importante. Le cirque est très connu. Vous avez imaginé un cirque très, très connu partout, on les demande. Et petit à petit, voilà, ça devient... les lions sont malades, on ne peut plus trop s'installer où on veut, on continue à faire tourner le cirque dans une banlieue pas très chouette, voilà, on n'est plus dans les cadres qu'on aime, et petit à petit, il y a moins de public, voilà, et arrive le moment terrible où, en fait, ils vont être mis en ghetto, et Antone va se faire confisquer son cheval. Donc, plus de chevaux, plus de déplacements, plus de... C'est cette dimension-là, je trouve, de rétrécissement. Alors, peut-être revenir sur ce personnage d'Antone. Il a quand même... C'est un héros. Hein, il traverse avec beaucoup de chance, hein, de hardiesse aussi, des aventures. Peut-être parler des personnages qui vont l'aider dans cette traversée.
Alors, le personnage qui va, en fait, qui est le père spirituel d'Antone, c'est le violoniste Jacques, qui est considéré par la compagnia comme un marimé, c'est-à-dire comme un impur, parce que d'abord il sait lire, même s'il prétend le contraire. Il va initier Antone à la lecture, donc il est considéré comme un marimé, c'est-à-dire un faux zigane, quelqu'un qui s'est par trop compromis avec les gadgets. Et c'est un peu aussi ce qui attend Antone, puisque quand son père découvre qu'il sait lire, son premier réflexe c'est de le battre, hein, de vouloir le battre. Jacques va l'empêcher. Et donc Jacques va apporter à Antone un savoir livresque, mais pas seulement, aussi une philosophie de lecture de l'être humain, c'est-à-dire être capable de repérer assez vite qui est profondément humain et qui ne l'est pas, ce qui fait que dans la suite de son odyssée assez terrible, il saura toujours plus ou moins bien s'entourer, c'est-à-dire qu'il va reconnaître très très vite les bonnes personnes. C'est le cas de Simon de Wertheimer, évidemment, dans le ghetto de Lodz, mais c'est aussi le cas de Katok à Mauthausen. Donc il sait s'entourer, ça va lui éviter un certain nombre d'ennuis. Et le fait d'être dresseur de chevaux, même si on lui retire à un moment donné son cheval, c'est aussi le fait d'être dresseur qui va le sauver à Auschwitz, puisqu'il est à un moment donné repéré comme dresseur de chevaux et ça va lui permettre d'échapper à la chambre à gaz, en fait.
Alors même si vous n'avez pas, vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas, c'est pas un roman historique, quand même quand vous abordez cette question du ghetto de Lodz, du camp de concentration et tout, peut-être deux mots sur quand même des sources historiques autour du génocide tzigane, qui alors, est quand même très méconnu aussi.
Oui, ben après ça tient, je serais tenté de dire, ça tient à la sidération à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand on découvre l'ampleur du génocide juif. Du coup, on en oublie les victimes secondaires, entre guillemets, hein, avec toutes les précautions à prendre.
Plein de guillemets. Ouais.
Voilà, plein de guillemets. Hein. Simplement, question de proportion, 6 millions de juifs exterminés. Et les Tziganes, on le dit, là par contre, je l'ai vu sans guillemets, hein, je l'ai lu, il n'y en a que, on ne sait pas trop, 500, 600 000 sur une population de 700 000, on ne sait pas trop. Mais voilà, j'ai trouvé dans des livres d'histoire, il n'y en a que. Voilà, comme si on pouvait mettre en balance, en fait, une vie humaine, c'est une vie humaine, point barre. Donc, j'ai voulu montrer l'histoire à hauteur de Tziganes, c'est-à-dire des gens qui sont les pieds sur terre et qui vont voir l'histoire de loin, parce que déjà, les gadgets leur sont incompréhensibles. Alors, les mouvements historiques des gadgets comprennent bien qu'en URSS, on est en train de construire des fermes bizarres, que dans certains endroits, on fait mourir les gens de faim. Mais ils ne savent pas pourquoi, ils ne comprennent pas exactement ce qui est en train de se passer. Et quand ils perçoivent justement cet enfermement progressif dont vous parlez tout à l'heure, c'est trop tard. Alors, la documentation et l'arrière-plan historique, elle est due à mon statut, enfin à ma carrière d'enseignant. Pendant 10 ans, j'ai enseigné en terminale littéraire. Et en 2001-2003, durant 2 ans, au programme était « Si c'est un homme » de Primo Levi. Et comme j'avais une trentaine d'heures de cours à préparer, j'ai dû lire 50 ou 60 livres sur la Shoah. Et j'ai croisé aussi d'ailleurs, à ce moment-là, le Poreimo, c'est-à-dire l'engloutissement des Tziganes. Et surtout, en lisant Primo Levi, du coup, j'ai lu d'autres ouvrages de Primo Levi. Et j'ai fini par lire Les naufragés, les rescapés, dans lequel Primo Levi analyse ce qu'il appelle la zone grise. C'est-à-dire cette zone indistincte entre le blanc et le noir, où on n'est ni bourreau, ni victime. Et il analyse pour cela un personnage tout à fait troublant, un personnage historique unique et très controversé, le doyen du ghetto de Lodz, qui s'appelait Chaim Rukovski, qui a été pendant très longtemps directeur d'un orphelinat, et on l'a d'ailleurs soupçonné de mœurs dangereuses pour les enfants. Et ce Chaim Rukovski, caractéristique du ghetto de Lodz, en plus d'avoir abrité momentanément un ghetto tzigane dans le ghetto juif, ce ghetto de Lodz a été dirigé donc par un doyen, Chaim Rukovski, qui a transformé le ghetto en une machine à produire au service d'un industriel qui s'appelait Hans Biebo, lui-même au service de la machine nazie. Et donc, ce personnage est très paradoxal parce que en asservissant ainsi son peuple, en faisant un rouage de la machinerie nazie, momentanément, il le met plus ou moins hors des déportations que fournissaient, par exemple, les contingents de déportés que fournissait Varsovie. Le ghetto de Varsovie était très, très important. Par contre, à Lodz, pendant très longtemps, le ghetto a été, pas entièrement tranquille, mais tant qu'on produisait, à des cadences infernales, hein, on laissait à peu près le ghetto de Lodz en paix. Le problème, c'est que Chaim Rukovski avait une dimension messianique, il voulait réellement sauver son peuple, mais d'un autre côté, il l'a servi, et il s'est mis finalement à singer le tyran. Donc il avait une armée à son service.
Il y avait une monnaie.
Il y avait une monnaie, les marques qui circulaient dans le ghetto étaient signées de son nom. Donc c'était une sorte de pantin, mais qui s'imaginait avoir du pouvoir alors qu'il n'était qu'une marionnette dans les mains d'abord d'Hans Biebo, puis puis des nazis.
Alors au début, assez tôt dans le texte, on a entendu tout à l'heure ce que vous disiez sur le rapport au livre, hein, l'écriture. C'est un peuple sans écriture, sans mémoire. Donc évidemment, la question qu'on se pose, c'est quelle trace de cette histoire ensuite. Alors je voudrais quand même citer un livre qu'on a découvert récemment, qui est un livre d'Antoine Choplin, qui s'appelle Un ciel rempli d'oiseaux, où il évoque une figure tout à fait étonnante, Segea Soka, qui est une tzigane rescapée des camps, de plusieurs camps, de 3 camps je crois. Fanette, tu me dis si je me trompe, voilà. Et qui, assez tard dans sa vie, à plus de 50 ans, se dit qu'il faut témoigner, en fait. Et elle commence à écrire, mais à peindre surtout. Et donc, son œuvre a été découverte très tardivement. Il y a une galerie à Paris d'Antoine de Galbert, la Maison Rouge, qui lui a consacré une exposition. Elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en 2013. Et donc, très longtemps après. Mais il a fallu malgré tout que ça sorte. Peut-être deux mots sur cette mémoire.
En fait, contrairement au peuple juif qui a fait œuvre mémorielle très très vite, parce que d'abord il y a eu des gens qui ont écrit quasiment dès la libération des camps, hein, c'est le cas de Primo Levi, il a écrit très 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 vite, donc très vite on a su, même si le livre de Primo Levi a eu deux vies, la première édition il est passé quasi inaperçu, c'est presque une décennie plus tard qu'on commence vraiment à mesurer l'ampleur des dégâts, mais enfin il y a quand même beaucoup de témoignages, puis surtout les historiens vont s'emparer très vite de la Shoah. Par contre, ils vont tarder à s'emparer du Poraimos et de l'extermination des Tziganes. D'abord parce que je pense que les Tziganes eux-mêmes ne s'en sont pas emparés, contrairement au peuple juif, qui chaque survivant était une mémoire. Et j'ai découvert d'ailleurs que mon livre avait été très 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 vite répertorié en Israël, c'est-à-dire qu'en fait tout livre qui paraît, qui traite de plus ou moins loin de la Shoah est immédiatement repéré, quel que soit le lieu dans le monde où il est publié. Donc ça veut dire qu'il y a une cellule de veille constante sur tout ce qui sort sur la Shoah. Les Tziganes, les premiers tziganologues véritables, c'est-à-dire les historiens, ça date des années 1980, hein, je ne pense pas avant, alors que les historiens de la Shoah, dès 1945, ça commence, hein, en fait. Ensuite, donc le peuple tzigane n'a pas pris en... parce que c'est un peuple sans écriture, où il n'y a pas d'historien tzigane jusqu'à une date récente. Il y a très peu d'écrivains tziganes, il y en a quelques-uns, mais justement, ils sont regardés comme des marimés. Et ensuite, il y a une mentalité qui fait... Ils ont été brimés, les tziganes, depuis qu'ils ont quitté l'Inde. Hein, donc ça remonte à des temps immémoriaux, exactement comme le peuple juif. Mais ils ne prennent pas... Ça ne les intéresse pas hier, en fait. Hier ne les intéresse pas, demain non plus. Ce qui compte, c'est là, maintenant. Hic et nunc, hein, ici et maintenant, rien de plus. Donc c'est assez logique que ce peuple n'est pas écrit, en fait. Et voire même ignore complètement cette partie de leur histoire. J'ai discuté avec des manouches du Puy-de-Dôme. Certains tombaient des nues, ne savaient même pas que cet épisode avait existé. Après, il y a des menteurs. C'est-à-dire... Il y a des gens, j'ai croisé un vieillard qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit que ça n'existait pas. Et je savais que c'était un survivant. Mais il ne voulait absolument pas en parler. On ne parle pas des morts. Voilà, on ne parle pas des morts.
Sandrine, quelques mots sur la littérature autour de l'histoire de la commune qui vous a peut-être inspiré. Enfin, pas seulement les journaux des...
Il n'y en a pas énormément, en fait. Ça m'a surprise. Bon, il y a des historiens qui s'y sont intéressés, mais pas énormément non plus. Michel Vinocq en particulier. C'est en lisant un de ses livres que j'ai commencé à m'intéresser à la commune, en fait. Et sinon, donc, les journaux des communards, certains sont devenus célèbres et donc ont publié en fait, plus tard. Je pense à Jean Holleman qui a créé avec Jean Jaurès... je crois que c'était Gued, la SFIO en 1905, donc lui il a publié ses souvenirs de communards très tard, mais c'est tout en fait, et il y a très peu de romans. Michel Audin en a écrit deux, donc le dernier 125 rue des Juifs ou 121, qui parle de l'exil à Londres, elle en a écrit un il y a 3 ans qui s'appelait Comme une rivière bleue, qui parle aussi de la commune. Je crois qu'il y en a un qui parle de la traversée aussi, mais d'une manière très, très, presque technique. Et je crois que c'est tout. Je n'ai pas fait forcément une recherche fouillée des romans existants, mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres, en fait.
Il y a, après, sur des communards, je pense au livre de Didier Lénin sur Maxime Lisbonne, Le banquier des affamés.
Ah si, oui, effectivement. J'ai vu celui-là. Et donc, il y a effectivement Deninck et puis peut-être un ou deux autres comme ça, mais pas énormément. Il est effectivement en fait, très drôle en fait, sur le Maxime.
C'est un sacré personnage. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que de la Nouvelle-Calédonie, alors, il y a plusieurs catégories de déportés hein, aussi, déportés en forteresse, etc. On ne s'évade pas, sauf... quelques exploits, et notamment l'évasion de Rochefort, par exemple, qui est...
C'est la seule, je crois. Ouais. Ils ont été mis là-bas, effectivement, donc quand il a été décidé où serait le lieu d'internement des communards, à la Chambre, un député avait dit, d'un côté, ils seront bouffés par les requins, de l'autre, par les anthropophages, donc on est tranquille. Alors, l'un comme l'autre, en fait, ils n'ont pas forcément beaucoup mangé de grand monde. Mais oui, donc ils étaient dans un lieu volontairement très loin. Et la Calédonie, c'est non seulement exactement à l'autre bout de la France. Hein, vous passez par le milieu, vous arrivez là-bas. Mais c'est vraiment au milieu de nulle part. Et le plus proche, c'est l'Australie. C'est à minimum 1000 km. Donc, on ne le fait pas à la nage, ni en pirogue. Donc, c'était une assurance qu'en fait, il ne se passerait rien. Donc, le seul, effectivement, il y a eu une seule évasion de toute l'histoire de la déportation là-bas. Et elle a été réussie parce que... Jean Rochefort avait beaucoup d'argent, beaucoup d'amis. La franc-maçonnerie aussi l'a beaucoup aidé. Et donc, il a planifié ça très, très bien. Mais du coup, il n'y en a pas eu d'autres aussi, parce qu'après, on s'est quand même méfié. Donc, ça a été un lieu, de ce point de vue-là, réussi en termes de lieu d'internement. L'alternative, en fait, le gouvernement en fait, de l'époque, il existait Cayenne. Mais quand on était envoyé à Cayenne, on avait une très, très grande chance de mourir. Or, par souci étonnant de décence ou non d'hypocrisie, mais vraiment étonnant, le gouvernement s'est dit, bon, ceux qu'on n'a pas tués de communards, on ne va pas les envoyer à Cayenne parce qu'en fait, ils vont y mourir. Et bon, quand même, ce n'est pas ça qu'on a vu. On veut vraiment qu'ils expient. On veut vraiment que quand ils rentrent, s'ils rentrent un jour, ils aient changé d'avis et qu'ils le fassent savoir. Donc, du coup, ils ont cherché un lieu alternatif. La Calédonie avait été annexée, mais on ne savait pas trop quoi en faire. Et du coup, c'est arrivé comme ça. Mais l'alternative, c'était les Marquises, où il n'y avait absolument personne. Donc, en tout cas, des lieux le plus isolés possible pour les enterrer vivants. En fait, c'est vraiment ça, c'est le fait d'enterrer les gens vivants.
Tout à l'heure, quand vous évoquiez les moyens de survivre mentalement, il y a physiquement et mentalement, il y a un regard relativement complexe, je trouve, sur cette histoire de l'imaginaire. Étienne, votre personnage, il se méfie beaucoup de la mémoire, en fait. Il se méfie du ressassement. Et notamment, il est très... il s'écarte un peu dès que les communards ressassent leur échec, ressassent qu'est-ce qu'on aurait pu faire, etc. Mais par contre, il y a l'imagination. Sous le bateau, ça m'a frappé. Et ça a évoqué d'autres façons de faire qui sont évoquées par rapport à la survie dans les camps, c'est l'imagination. Et notamment quand Bauer, il reconstitue des soirées littéraires, où il se déplace dans Paris. Ils font des voyages imaginaires. Ça, c'est un point de vue intéressant, je trouve.
Je pense qu'on le fait tous, dans des circonstances moins tragiques, et dès l'enfance, quand on s'ennuie, on essaie de s'échapper. Là, c'est un ennui à très grande échelle, et même un ennui existentiel. Donc oui, ça, c'est bien sûr plutôt de l'imagination. Pour moi, je ne l'ai pas lu. Mais à leur place, j'imagine que c'est comme un des moyens de survivre, c'est de se rappeler ce qu'on a perdu, ce qu'on a quitté, et de recréer un peu un monde imaginaire où on vit en parallèle. Ils n'avaient pas de drogue sous la main, c'est aussi pour ça. Mais plus largement, ce que vous parliez avant par rapport au ressassement, en fait, moi, ce qui m'a vraiment au début intéressée, et que je voulais écrire une histoire là-dessus, c'était l'aspect de l'engagement. Je pense qu'il y a des épisodes comme ça dans l'histoire, et en fait, la Deuxième Guerre mondiale en est un, où vous pouvez vous dire dans la vie, ah ouais, moi je me laisserai pas, moi je collaborerai pas. Et ben, en fait, on ne sait pas. Tant qu'on n'est pas confronté à ça, personne ne peut dire si, de quel côté il aurait été, s'il aurait été d'un côté ou s'il aurait juste essayé de passer sous le radar. Je pense qu'on ne peut pas. Et moi, ça me fascine les gens qui, il y en a de nos jours dans des dictatures qui font ça, qui s'engagent au péril de leur vie. Donc c'est ça au début qui m'a intéressée, au-delà du fait qu'on les envoie à l'autre bout du monde, etc. Et du coup, quand vous vous êtes engagé et que vous avez perdu, et assez nettement, on va dire, la question se pose, et elle s'est posée pour les communards, de qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Dans l'espoir de rentrer un jour, ce qui n'était pas acquis, parce qu'ils pouvaient penser pendant longtemps qu'ils ne rentreraient jamais. Si vous vous dites, bon, je compte sur le fait que je vais rentrer, que je ne vais pas y rester, au sens propre et figuré, la question s'est vraiment posée à eux de rentrer et de se faire oublier, de mener une vie normale, si je puis dire, ou celle, justement, de ne pas avoir perdu le combat pour rien et de remettre ça. C'est la question qui s'est posée à tous. Et les réponses qu'ils y ont apportées ont été très diverses. Une bonne partie sont revenus en se disant « Je vais quand même maintenant essayer d'avoir une vie normale. » Et ils ont essayé de tout oublier. Et d'autres sont devenus, au contraire, des leaders de l'anarchisme, du socialisme. Et ils ont remis ça, si on peut dire.
Il y a un épilogue, 10 ans après l'échec de la commune, la fin de la commune. Et votre personnage, il exprime quand même l'espoir qu'on puisse rebâtir une utopie, etc. Je crois qu'il y a une ouverture assez...
Je me suis interrogée sur le destin qu'il aurait, puisque comme lui était un personnage fictif, il pouvait devenir ce que je voulais, on va dire. Tout y est passé. Et je lui ai donné le destin que j'aurais aimé avoir pour moi, en fait. de ne pas renoncer. Après, une partie, vous parliez de, par rapport à l'héritage au début, une partie des mesures qu'ont mis en place les communards pendant les 72 jours, une partie sont devenues une réalité. Égalité des salaires hommes-femmes, comme pour les instituteurs, par exemple. Ils ont fait des choses très modernes, comme les veuves, mais non mariées, des soldats qui combattaient pour la commune, avaient le droit à la pension comme les femmes mariées. Donc, notamment, les femmes ont fait passer, ça n'a pas été facile, hein, parce que les communards n'étaient pas plus féministes que d'autres, pour la plupart, ont fait passer des mesures comme ça, effectivement, d'égalité, non seulement des hommes en termes de statut social, mais entre hommes et femmes. Donc, une partie, en fait, des choses qu'ils prenaient, ou le fait que les filles ne soient pas seulement éduquées à devenir des bonnes épouses, mais vraiment un métier. Il y a eu les premières écoles pour filles qui soient autre chose que, voilà, devenir une bonne épouse, et chrétienne, si possible. Et ça s'est mis en place un peu plus tard. Donc, en fait, une partie des choses sont devenues la réalité et une partie sont toujours d'actualité, je pense, en termes de devenir.
Merci beaucoup. On a 5 minutes peut-être pour des questions avant de passer aux signatures derrière. Puis, effectivement, il y a un autre événement derrière, donc ne pas perdre. Il y a un micro qui peut circuler si vous avez des questions à nos deux auteurs. Fanette.
Merci pour votre dialogue. En tous les cas, c'était passionnant. Simplement, une réflexion par rapport à ce que vous dites sur le fait que l'histoire de la commune a été reléguée. C'était pour citer un personnage, un historien bien connu, pour ne pas le nommer, c'est Pierre Nora, qui reposait la question de la célébration de la commune, disait qu'on pouvait célébrer Napoléon, mais que la commune n'avait rien apporté à la République. Voilà, donc on en est encore là. Et vous dire aussi que simplement.
Mais Pierre Nora est un très grand historien, mais il vieillit mal.
Voilà, exactement. Et puis, juste pour citer les travaux de Ludivine Montigny sur les femmes de la commune, parce que je pense que c'est très actuel et que c'est vraiment.
Oui, il y a eu beaucoup de livres beaucoup, non pas tant que ça, mais des livres historiens, historiques d'historiens, mais prenant la chose effectivement ce que dit Verzande, qui ont été très intéressants, qui sont sortis dans le passé. Vous avez raison effectivement de les signaler, et notamment celui-là avec des témoignages qui rendent l'histoire en fait qui dépoussière la manière dont on peut aborder ça d'une manière très historique quand même.
Sur le rôle des femmes, il y a une bande dessinée en 3 volumes de Lupano qui s'appelle Communarde, où chaque fois il a invité une dessinatrice différente pour illustrer son travail. Il y a quand même des choses.
Hein, mais elles ne sont pas à la hauteur de l'intérêt
de l'enjeu de l'événement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une main là-bas.
Merci. Bonjour. Moi, je voulais poser la question par rapport au Kanak que vous évoquez relativement rapidement dans votre livre, et de savoir un petit peu au moment où les communards sont arrivés, les liens qui avaient pu. Alors, je n'ai pas tout le livre en tête, parce que je l'ai lu il y a un moment. Et voilà, je voulais savoir un petit peu.
En fait, c'était une de mes grandes déceptions. Parce que quand j'ai voulu, avant de vouloir écrire, je me suis posé des questions en fait. Le fait d'écrire une histoire, c'est parce que je ne trouvais pas les réponses, donc j'ai voulu les inventer. Et l'une d'elles, c'était, est-ce que, sachant qu'à l'époque, évidemment, pour tous les Blancs, les Kanaks, les Africains étaient juste des singes, je me suis demandé si les communards avaient un autre regard. Eh bien, la réponse est non. En fait, c'était, j'avoue, une grande déception. Les seuls qui ont eu un autre regard sont Louise Michel et Charles Malato, qui était tout jeune et qui est devenu après un leader anarchiste. Qui a écrit ses souvenirs en fait et qui est clairement fait partie de ces gens. Je ne sais pas si c'est un surplus d'intelligence ou quoi, mais qui ne pense pas comme son temps. Et ça, c'est. Mais en tout cas, par rapport à votre question, non seulement ils ne les ont pas vus différemment des autres Européens, mais en fait, ils ne les ont pas vus du tout. C'est-à-dire que le séjour, si on peut dire, le séjour des communards en Calédonie, à quelques exceptions près en termes d'individus, ils n'ont pas vécu là. Ils ne se sont pas du tout intéressés au pays, ça ne les intéressait pas, leur vie était ailleurs et ils étaient dans l'attente de retourner chez eux. Donc c'est aussi ce qui m'a marqué, c'est qu'ils n'ont absolument pas vu rien du tout, ni les Kanaks, ni rien d'autre de la Calédonie, à très très peu d'exceptions près.
Je voudrais juste signaler par rapport à Louise Michel, la façon vivante dont vous la présentez, et notamment, elle a une vraie ménagerie avec elle, des chèvres, ça pue et ça fait du bruit, voilà.
Et pas que les chèvres qui puent, manifestement.
Voilà, ça remet des images très réelles. Merci à tous les deux, merci infiniment.
Merci.